Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sal et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Chine 2024 disputé à Shanghai. Pour revenir sur ce Grand Prix, cinquième course de la saison, j'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou.
Comment vas-tu?
Mieux que toi, je pense, parce que moi, j'ai de la voix, contrairement à toi, parce que toi, hier, t'as fait tour à tour les femmes au hockey à Montréal, puis le Stade Saputo pour le match de soccer, donc alors que moi, je suis resté à la maison et j'ai pu dormir pour me lever à 2h30 pour regarder le Grand Prix à 3h.
Ouais, ben écoute, ouais, j'ai été au hockey pour voir la LPHF, j'ai crié et je salue Pierre Mayotte, un ami du balado qui m'a invité, je le remercie encore une fois. Et ensuite, j'ai été au Stade Saputo pour voir le CF Montréal faire un Lando Norris au Grand Prix de Russie 2021.
Ouh, au sprint d'hier.
Au sprint de samedi, effectivement, oui. Déjà là. Mais contrairement à Norris au début, Montréal, c'était à la fin. Donc, ça a fait mal. Ça a fait mal. Mais au moins, il me reste encore de la voix. Il me reste encore de la voix pour déblatérer et peut-être jeter un peu de fiel sur Lance Stroll. On en reparlera après. Parce qu'on va parler du Grand Prix en tant que tel. Parce que, comme d'habitude, Max Verstappen a gagné. C'est sa première victoire en Chine. Lando Norris termine deuxième sur la McLaren et Sergio Perez complète le podium en troisième place. Ensuite, on a quatrième et cinquième les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. George Russell sur la Mercedes est sixième. Fernando Alonso, septième sur la Aston Martin. Oscar Piastri, huitième sur l'autre McLaren. Lewis Hamilton, qui va être très content dans les circonstances de marquer des points, 2 points, neuvième. Et Nico Hülkenberg termine dixième, 1 point pour Haas. On a perdu dans cette course Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo. Donc, voilà, Jean-Sébastien, sans plus tarder, des évaluations du Grand Prix, donc performance du jour, contre-performance et moment cocasse.
Alors, performance du jour, Fernando Alonso, pour avoir sauvé la voiture à l'avant-dernier tour, il allait cracher dans le mur à la ligne de départ arrivée. Quelle sauvegarde de la voiture monumentale à 42 ans, un réflexe de Dieu. Magnifique à voir. Ça, franchement, là, c'était d'une beauté à voir. Oui, il a échappé, oui, c'est fautif, mais de la façon dont il l'a récupéré, pas beaucoup de personnes l'auraient fait.
Et oui, et t'imagines, si Alonso avait eu cet accident et contre l'abandon, ben Esteban Ocon aurait obtenu un point pour Alpine, hein? T'imagines?
Ça, j'avais même pas pensé, tu vois. Ça, j'avais même pas pensé. Contre-performance du jour, on va passer. Moment cocasse. C'est pas un moment cocasse. C'est un beau moment, je trouve. C'est le public chinois qui est en liesse avec Guan Yuzo. On l'a vu très émotif. Je pense qu'il a même un peu pleuré après être arrivé. On lui a laissé une place de parking. Oui. Avec le panneau avec son nom. Ouais. Et le public chinois était très derrière lui, là. C'était vraiment beau à voir. Donc ça, il faut le donner, là. Ça peut être une performance du jour. Le public chinois qui était au rendez-vous et qui a supporté son pilote local. Ça, c'était chouette. Contre-performance du jour, on va dire qu'il n'y a pas de contre-performance du jour parce que j'ai envie de la remplacer par « j'ai l'air d'un foin ». Et Dieu qu'au registre du « j'ai l'air d'un foin », il y a des candidats potentiels. On peut commencer avec sans doute Kevin Magnussen qui a harponné Yuki Tsunoda qui a causé un abandon avec une pénalité de 10 secondes qui va être transformée après coup non, il a terminé le Grand Prix, donc ouais. Pénalité de 10 secondes, c'est inexcusable cette pénalité à la relance. Ouais. Ensuite, on peut très certainement parler de Lance Stroll qui a l'air candidat au foin de l'année sur l'instant sur Daniel Ricciardo. Jusqu'à ce matin, j'avais pas réalisé quand Daniel Ricciardo parlait avec Canal+, c'est un extrait que tu m'as envoyé, Abdou. Lance Stroll, regarde le virage, regarde pas devant. Oh, man. Il a l'air complètement ridicule. Et pour ça, j'ai une citation, et c'est une traduction de l'anglais là, qui vient de ESPN F1. Il dit, là c'est Daniel Ricciardo qui parle, apparemment, je suis un idiot et c'est de ma faute. Et tout ça fait mon sang bouillir. La seule chose que tu as à faire, c'est de regarder la voiture devant. Je fais de mon mieux pour ne pas dire ce que j'ai envie de dire, mais F ce mec. Et je suis poli en plus. Mais si c'est ce qu'il pense, et voilà, donc la station s'arrête là. Ouais.
Et de toute façon, on va revenir sur cet incident après parce que.
Je vais juste placer une dernière chose. Est-ce que c'est la faute de trop pour Lance Stroll?
Ouais. Parce que, écoute, moi, j'ai, avec le Substack, je pense que je vais essayer de me consacrer là-dessus.
Abonnez-vous au Substack.
Oui, please. Puis c'est gratuit.
Abonnez-vous au Substack Bulletin GP, c'est gratuit. Et puis le troisième, on l'a pas vu la pénalité, mais on comprend qu'il y a une pénalité de 10 secondes aussi. Logan Sargeant pour... On l'a pas vu la reprise. On l'a pas vu en direct, on n'a pas vu la reprise, on a juste su qu'il y avait une pénalité de 10 secondes.
En fait, je l'ai vu, c'est qu'il y a une reprise, c'est que Hülkenberg qui était sorti de la ligne des puits pendant la voiture de sécurité et normalement tu as la ligne de sortie
il a dépassé cette ligne là.
Ouais, puis
c'est automatique.
Ouais. Donc
c'est automatique.
C'est ça, Sargeant s'est pris une pénalité parce que au lieu de laisser passer Hülkenberg, il est allé quand même continué devant alors que tu dois dépasser personne durant la période de voiture de sécurité. Donc
voilà, c'est mes impressions générales du Grand Prix à toi.
Et si tu me permets, la performance du jour, je vais la donner à Lando Norris pour la course. Parce que pour le sprint, on en reparlera, c'était paf.
Ouf.
C'est lui-même mis un peu dans le...
C'est l'histoire d'un virage.
C'est l'histoire d'un virage. Contre-performance du jour,
On a le choix,
mais je vais la donner à Lance Stroll. Pas pour le bâcher, mais plus pour la réaction face à ça et tout ça.
Et le fameux « unbelievable, I can't believe ». Quand on l'entend à la radio, il n'arrive pas à croire qu'il reçoit une pénalité pour ça, alors que c'est clairement lui le fautif.
Ouais, exactement. Et puis, j'ai pas de moment cocasse. Je dirais plutôt, je suis d'accord avec toi, puis... Je veux un petit peu m'éterniser là-dessus avant de revenir sur le Grand Prix en tant que tel, mais tu sais, quand tu as parlé de l'accueil que Zhou Guanyu a obtenu après le Grand Prix, qui a eu son propre parc fermé, moi je pense que c'est magnifique. J'aime voir ces genres de moments parce que c'est son premier Grand Prix local.
On espère que c'est pas le dernier parce que je pense qu'il y a un certain talent quand même.
Ouais, évidemment, lui fait partie des pilotes dont le contrat se termine à la fin de la saison. Donc, au moins, il a eu la chance après tant d'années d'avoir son propre Grand Prix. Et je pense qu'il avait le potentiel d'aller chercher des points. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il chute au premier tour. Est-ce qu'il a eu un contact ou quoi que ce soit ou il s'est arrêté assez tôt pour. Mais je pense qu'il a vraiment connu un excellent week-end. Sa performance au sprint, même s'il n'a pas marqué, même s'il termine 9e, elle était vraiment bonne dans les circonstances. Oui, il finit 14e, mais. Je pense qu'il a été quand même bon dans ces circonstances. J'aurais aimé ça qu'il marque un point. Je pense que Sauber avait le potentiel. D'ailleurs, Bottas était 11e au moment où son abandon s'est produit. Donc, je pense que Sauber peut se tire un peu d'affaire avec cette belle performance. Mais vraiment, je pense que Le public a répondu présent, quand j'ai écouté le podcast Beyond the Grid avec Tom Clarkson mercredi et les nombreuses entrevues qu'il a données aussi, c'est quelqu'un qui comprend vraiment que c'est pas tout le monde qui a la chance de se rendre en Formule 1 comme lui. Pour travailler aussi fort pour aller vivre à Sheffield pour poursuivre sa carrière de pilote, avoir une meilleure opportunité et avoir la chance de finalement conduire en Formule 1 et finalement après 5 ans après le dernier Grand Prix de Chine d'être sur la grille de départ, je pense que juste à voir sa réaction d'avoir finalement complété un Grand Prix devant ses partisans, c'est vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur.
Ouais, il rappelle un peu les pilotes brésiliens des années 70-80 qui devaient absolument partir pour aller au Royaume-Uni, parlaient pas un mot d'anglais et voyaient pas les familles pendant des années. C'est le cas de Senna, c'est le cas de plein de pilotes de ce genre-là. Donc, il y a comme une affiliation qu'on peut faire avec un certain passé de la Formule 1 qui rend, je pense, obligatoirement Guanyuzo sympathique, là. D'autant plus qu'il a quand même frôlé la mort à Silverstone en 2022, là. Donc, oui, amplement mérité pour lui, puis on lui espère plein d'autres grands tricotines.
Et s'il y a quelqu'un aussi à qui on peut espérer d'autres succès dans le futur, et ça, on lui souhaite, c'est Max Verstappen parce que il a finalement gagné un Grand Prix. Le Grand Prix de Chine, c'était un des. Je pense qu'il lui manque Singapour aussi pour compléter tous les Grands Prix gagnés cette saison.
Déjà, juste ça, quand même.
Donc, quand même. Jean-Sébastien, Verstappen, on pour ce Grand Prix, ben pour la course en tant que telle, on n'a pas grand-chose à dire de Verstappen. Il a été assez dominant.
Il était magistral, encore une fois. Moi, j'en regarde mes notes, j'en ai franchement pas beaucoup. Là. Qu'est-ce que j'ai? Verstappen est revenu. Il s'est arrêté assez tôt quand même. Il a bien joué l'undercut, visiblement. Il s'est arrêté quelques tours avant, autour du 15e, 14e, quelque chose comme ça. Il a repris la tête au 19e. A bien géré la voiture de sécurité complète en faisant un cheap arrêt au puits. Là.
Ouais.
Et puis, a su bien gérer la course jusqu'à la fin. Franchement, c'était magistral. Il a collé 15 secondes à tout le monde, minimum, à la fin de la course, sachant que la course a repris au 32e puis elle finit sur 58. Donc, il a collé 15 secondes en 28 tours, à peu près.
Mm-hmm.
À 26 tours, ouais, c'est une claque.
Ouais, exact. Puis, à la fin,
il y a un moment donné où on finit par manquer de qualificatif pour dire ce que Verstappen peut faire. On aurait pu dire la même chose de Lewis Hamilton la précédente décennie ou Schumacher il y a 20 ans. Tu vois, c'est des trucs où est-ce qu'il met des plombes à tout le monde.
Et puis, à un moment donné aussi, on se demandait, à la fin, il disait, est-ce que j'ai une crevaison et tout ça aussi, mais finalement, c'était rien.
Je pense que c'est plus procédure standard. Là. Il se fait dire tel endroit sur le circuit, il y a du débris. Donc, il faut faire attention, tu passes dessus, tu veux juste t'assurer que tout est correct. Parce qu'avec un tour et demi à faire, 15 secondes, ça ne te permet pas de pouvoir assurer une victoire. Donc, procédure habituelle.
Exactement. Mais contrairement au Grand Prix du Japon, on n'a pas eu de doublé parce que, comme certains autres pilotes, Sergio Perez a, disons, été un peu floué par la voiture de sécurité. Hein.
Oui, il s'est fait avoir par la voiture de sécurité. C'est un peu bête. Mais il s'est quand même repris lors de la deuxième voiture de sécurité, visiblement. Donc, il a pu être un peu plus dans le coup. Il est parti un peu plus loin aussi. Il est parti deuxième. Il y a eu quelques difficultés au départ, rejoint dans le trafic, a eu des dépassements, a fait une bonne course quand même. Là. Il a tout juste fait, comme on dit en anglais, du argy-bargy. Il était obligé de jouer dans le trafic. C'était intéressant. C'est un Leclerc, excuse-moi. C'est un Perez habituel de ce qu'on voit. Il y avait clairement une opportunité de faire un doublé. Ils l'ont pas fait. C'est un peu dommage. Si Perez était meilleur, Red Bull ferait des doublés, Grand Prix après Grand Prix. C'est quelque chose qui manque chez Red Bull. C'est dans cette dynastie qu'ils construisent avec Verstappen. Il n'y a pas de doublé. Il y en a très peu.
Ouais. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression aussi que Perez aussi en a un peu arraché avec... C'est rare que je dise ça, mais je pense qu'il était pas à l'aise avec les pneus parce que c'était quand même un peu froid aussi sur le circuit. La piste a été resurfacée entre guillemets, disons.
Peinturée,
voilà. Donc, ça a été plutôt une situation où c'était un Perez qui allait visiblement finir deuxième, mais c'est juste des circonstances. La voiture de sécurité virtuelle qui a pris du temps avant d'apparaître.
Ah oui, une éternité.
Oui, exact. Avec la voiture de Bottas qui s'arrête, mais qui est carrément pris au neutre, donc Scapa aidé Perez. Disons aussi qu'il a perdu, qu'il n'a pas été en mesure de rattraper Norris parce que je pense qu'il atteint certaines limites où il essayait de gérer ses pneus en fin de course. Donc,
ou carrément les restes de la composante de la voiture aussi. Là, on arrive quand même à un certain seuil de transition. Mais si tu me permets, j'aimerais juste rebondir un instant sur l'histoire des pneus de Perez. Perez n'a pas été le seul à avoir de la difficulté avec les pneus.
Ouais.
Leclerc. Difficulté. Hamilton, la difficulté, si on l'a constaté, mais Hamilton, du moment qu'il n'est pas premier, il a tout le temps de la difficulté avec ses pneus. Alonso, c'était. Mais ça, c'est un schoolboy error. Ça, on aurait pu le mettre dans le l'air d'un foin, là. Pourquoi, lors de la voiture de sécurité, tu décides de mettre des tendres alors qu'il reste à peu près 30 tours à faire?
Ouais.
Je ne comprends pas. Mais même là, Verstappen, lors du sprint, ça n'a pas été facile non plus. On a entendu, il a fait des réglages moteurs. Ça semblait être pas super facile. Le vendredi, il se plaignait que les pneus étaient de la glace.
Ouais.
Donc, la composante des pneus était difficile pour tout le monde. Les meilleurs, ceux qui ont obtenu un meilleur résultat, c'est ceux qui ont pu bien tirer parti de la difficulté de gérer les pneus. Perez termine troisième, s'il avait mieux géré, aurait fini deuxième. Norris a su bien gérer ça parce qu'on lui avait dit dès le départ du Grand Prix, on pense qu'Alonso brûle ses pneus.
Mm-hmm.
Ils avaient raison. Je ne sais pas par quelle information ils l'ont eu, mais ils avaient raison. Donc, cette gestion des pneus a donné une prime à ceux qui ont su comprendre comment le faire. Alors que normalement, c'est un élément un peu nivelant là, qui permet de dégazer tout le monde. Là, ici, il fallait trouver les tours de passe-passe. Je trouve que ça rend... cet aspect-là, post-Grand Prix, quand on l'analyse, je pense que ça le rend intéressant, mais pendant le Grand Prix, c'était d'un ennui total.
Ouais, exact. Et puis... avec toute la semaine, avec tout le samedi que j'ai eu, j'ai réussi à rester éveillé, mais j'ai eu des petits moments de somnolence sur entre un ou deux tours. Mais c'était pas, c'est vrai que c'était pas le Grand Prix le plus intéressant malgré certaines actions dans le milieu du terrain. Chez McLaren, ben on doit être vraiment content de la deuxième place de Lando Norris, alors que lui disait que Ferrari serait genre 35 secondes devant, mais finalement, ça a jamais été le cas. Puis, quand même, je dois dire, il est vraiment, on reviendra sur le sprint plus tard. Mais dans la course, il a vraiment bien tiré parti de la première intervention de la voiture de sécurité. Évidemment, avec ce qu'on a dit, le fait que Perez se soit fait flouer sur la stratégie.
Ouais, Norris, par contre, s'est pas arrêté au 22e quand tout le monde s'est arrêté. Il est rendu au 23e parce qu'il était déjà trop tard.
Ouais.
Mais bon, ça, c'est pas si grave parce que par le temps que tout le monde rattrape, il a pu faire son arrêt au puits, puis il a pas eu de perte. Donc, il a quand même bien limité ça. De façon générale, bonne course de lui, bon rythme. Son avantage tire sans doute partie du fait qu'on a surévalué Ferrari, ils étaient en fait sous-performants par rapport à leur rythme normal.
Mm-hmm.
Encore début de saison, on apprend un peu encore quelles sont les forces et les faiblesses des uns et des autres. Un circuit comme Chine, ça veut dire que c'est pas nécessairement utile pour, c'est pas nécessairement bon pour la Ferrari. Donc, dans deux semaines à Miami, ça peut très bien être le contraire. Donc, on verra au fil des Grands Prix, mais on affine au moins les forces et les faiblesses des uns et des autres. Un circuit comme celui-là va vraiment bien avantager les McLaren, visiblement, surtout sur une température plus fraîche. Il y en a quelques autres qui s'en viennent dans le calendrier, là, surtout lorsqu'on va revenir en Europe. Ça peut être un avantage à ressortir. Mais n'empêche, sur Norris, rien à dire, c'était propre. C'est son coéquipier qui a été un peu plus brinque-balle.
Oui, et justement, Piastri, ben, je pense que lui aussi, il a été largué carrément. Il doit encore travailler sur sa gestion de pneus parce que je pense que, oui, Piastri est un très bon pilote, mais il doit travailler justement sur comment bien gérer ses pneus parce que
ouais.
Parfois, c'est ce qui fait en sorte qu'il perd des positions en fin de course parce qu'il est pas capable de bien contrôler l'usure des pneus. Donc ça donne quand même des positions un peu basses dans le top 10. Je vais juste vous rappeler qu'il a fini 8e et surtout que Il s'est fait dépasser par Fernando Alonso qui était sur des tendres dans une stratégie assez douteuse et à 13.
Un arrêt un peu particulier, mais comme tu dis, Norris termine deuxième à 13,7 secondes de Verstappen. Voyons. Et Piastri. Ouais, c'est, le matin était un petit peu difficile. On n'a pas beaucoup dormi, ça paraît. Piastri finit huitième à 56 secondes de Verstappen. C'est 43 secondes derrière son coéquipier, là. Puis l'écart, c'est sur 28 tours à partir de la relance, à partir de la deuxième relance. Donc, ça fait mal.
Et surtout, Alonso a été capable de s'éloigner. Hein, quand il l'a dépassé, c'était genre... là, il est à quoi? 13 secondes? 13, oui. Il a fini à 13 secondes de Piastri. Donc, c'est ça. C'est ce genre de truc. Parce que McLaren, vraiment une bonne voiture en début de saison comparé aux deux dernières.
C'est même pas difficile. Et c'est, les trois dernières.
Ouais, les trois dernières même. Donc, c'est, donc au moins, c'est la deuxième saison. Je pense qu'on commence à... Il faudrait voir un peu plus de ce que Piastri a dans le ventre.
Il faut monter en grade.
Donc, justement, ça a été un problème qui a été relativement soulevé du côté du jeune Australien. Et je pense qu'on l'a revu aujourd'hui.
Puis on peut pas vraiment dire que c'est la faute du circuit. Il a jamais roulé sur ce circuit-là. Ouais. À la limite, personne n'a roulé sur ce circuit-là. Même ceux qui le connaissaient l'ont oublié. Norris, en 2019, il avait roulé là-dessus.
Ouais, il était recru.
Ouais. Mais bon, ça fait 5 ans, le circuit a terriblement changé. Les conditions aussi ont changé. Donc, et toutes les équipes l'ont dit, c'est comme si on roulait sur un nouveau circuit.
Exactement.
Donc, on peut pas sortir cette excuse-là dans son cas.
Ouais, donc ça au moins, on peut lui donner le bénéfice du doute là-dessus, mais c'est un problème qui revient, qui est revenu.
Ouais.
Donc là, dans deux semaines, ça va être à Miami sur une piste où il va faire chaud. Il risque de faire chaud et humide.
Humide.
On va parler de Ferrari. Tu en as glissé un peu quatrième et cinquième, correct, mais peut-être pas... dans les conditions qu'on aurait souhaité. Là.
Pas dans les conditions qu'on aurait souhaité, clairement, c'est une sous-performance. N'empêche, Leclerc a encore fait la stratégie qu'il fait au Japon et ça a payé parce qu'il a fini devant son coéquipier. On lui a demandé est-ce que le plan D, c'est le plan que tu aimerais suivre. Leclerc avait répondu, si c'est ce que vous pensez est le meilleur, oui, je vais le suivre. Il y a plusieurs années, on critiquait cette communication un peu étrange, comme qu'est-ce que tu penses du plan A, qu'est-ce que tu penses du plan B, qu'est-ce que tu penses du plan C. Finalement, au fil des années, là, OK, c'est peut-être intéressant. Au moins, on communique, on essaie de savoir c'est quoi les positions des pilotes. Au feeling, il y a cet aspect-là qui est très, ça va être cliché, là, c'est très latino, c'est très sud-européen, là, d'y aller au sentiment, pas juste avec la donnée brute, là, du nord-européenne, tu vois, mais savoir qu'est-ce que le pilote aussi pense, parce qu'il y a quand même une dimension aussi qui relève un peu d'un flair, d'un ressenti. Donc, de savoir qu'il voulait aller avec ce plan-là, qui visiblement était le plan d'un arrêt, ça a été assez utile parce qu'il a pu profiter de son arrêt pendant la voiture de sécurité, ce qui a permis de pouvoir faire devant son coéquipier. C'est dommage parce que je pense que le podium était possible, n'eût été d'une meilleure performance de la voiture.
Ouais. Puis quand même, je m'attendais à ce que... On s'attend souvent à ce que Ferrari fasse des erreurs stratégiques. Ça n'a pas été le cas, heureusement, dans ce Grand Prix. Donc,
cette année, ils n'en ont pas fait encore.
Non. C'est bien que tu dises le encore parce que on s'attend.
En fait, depuis le milieu de la saison l'année passée, je pense qu'ils n'en font plus.
Non, c'est ça. Je pense que
Ferrari. Le nouveau management qui est entré chez Ferrari, ça a pris du temps, mais depuis, là, avec Fred Vasseur, il y a quelque chose qui est installé.
Ouais.
Ils ont le vent en poupe. C'est positif. Les beaux jours de Ferrari sont devant.
Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se bâtit. Alors, pour moi, c'est facile de dire, on va s'attendre, on s'attend à ce que Ferrari fasse une gaffe et qu'on en parle et qu'on sorte le fameux thème. Mais en réalité, même si pour cette fin de semaine, ça a sous-performé, je crois que quatrième et cinquième, c'était ce que Ferrari a pu offrir en fin de semaine.
Puis franchement, quatrième et cinquième, là, on est savant avec eux, mais c'est ce qu'ils doivent faire minimalement chaque semaine.
Oui. Oui. Et c'est quand même la deuxième meilleure voiture du plateau. Donc,
oui. On sonne sévère, mais quatrième, cinquième, là, tu ne peux pas faire en bas de cinquième.
Non.
Tu n'as pas le droit de faire en bas de cinquième.
Non, c'est ça. Et en plus, ben, tu sais, le premier.
3-4 minimum. tes voitures, il faut que tu les places au moins, au pire, quatrième place, peut-être cinquième, parce qu'il y a, quelque chose qui se passe pendant le Grand Prix. Là. Mais en dessous de cinquième, là, c'est des réunions qui durent longtemps à Maranello le lendemain.
Oh oui, carrément. Donc, je pense que ça n'a pas été... je pense que c'est un petit peu off. C'est un petit peu off en Chine. J'espère qu'ils vont se reprendre à Miami. Mais s'il y a une équipe qui a vraiment besoin de se reprendre dans le top 5, c'est Mercedes. Parce que...
Oh non, ça c'est la super grimace, là. Ah! On commence par le mauvais sprint de George Russell le samedi, la qualification catastrophique de Lewis Hamilton dimanche. Une certaine remontada de Lewis Hamilton, quand même, il faut le reconnaître. Là, oui. Très loin, puis au bout de quelques tours, je me disais, non, je crois pas, Lewis Hamilton va baisser les bras, il va dire, je peux-tu abandonner? Il roulait, je pense, en 14e. Il se plaignait, disant que la voiture devant était trop rapide. C'était une Alpine. C'était Ocon qui était devant lui, puis il trouvait que la voiture était rapide. Donc, il y a un moment donné où ça a débloqué. Il a vraiment pu commencer à remonter un peu. Je pense que la mini-pause de la voiture de sécurité lui a permis de pouvoir placer un peu les idées, ou au moins essayer de retrouver un nouveau momentum. La remontée était bien. George Russell, sixième. Nowhere to be seen, comme on dit. On était nulle part. Moi, je ne me rappelle pas de l'avoir vraiment vu. Dans le sprint, c'était pas mieux non plus. Il s'est fait manger par Lewis Hamilton. Ça, c'est une catastrophe.
Ouais.
Parce qu'il termine 6 et 9.
Ouais.
Ramasse 10 points. Non, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour Mercedes.
Ouais, mais en même temps, il va falloir qu'ils acceptent la réalité que c'est genre la quatrième, cinquième meilleure équipe du plateau.
Donc. Ah, ça fait mal à dire ça.
Ouais. Ben,
il y a trois ans, ça se battait pour le championnat encore.
Et c'est comme ce que les t'sais, quand les gens commentent sur dans des vidéos parce que tel YouTuber n'a pas fait de view, là, le terme « fell off », je pense que Mercedes, c'est pas mal ça depuis 2022.
C'était pas juste un mauvais circuit, c'était un mauvais week-end, c'est des mauvais réglages. Ils ont essayé des choses complètement opposées. D'un côté, ils ont essayé plein de nouveautés sur une voiture, ils ont essayé plein de trucs traditionnels sur l'autre, ils ont essayé de regarder les performances. Tout était presque similaire, ils n'arrivent pas à comprendre le problème. Lewis Hamilton disait qu'ils ont essayé plein de choses qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le problème de la voiture. Ça, c'est fondamental. Là. Quand au moins tu dis, ouais, l'aéro, il faut corriger ça, au moins tu as une ligne directrice là, c'est je ne sais pas où est-ce qu'on doit aller.
Ouais.
Ça fait mal.
T'es heureux.
Ça, c'est une voiture qui recule.
Et heureusement pour Mercedes, ils ont quand même une avance très relativement considérable sur Aston Martin au championnat des constructeurs. C'est 52 contre 40 pour Mercedes.
Encore heureux parce qu'ils ont un second pilote qui n'est pas bon.
Ouais. Donc, tu vois, c'est au moins une
bénédiction. Et l'autre étant Fernando Alonso, hein, je veux juste préciser, là, je ne parle pas de Mercedes, je parle de Aston Martin.
Donc, c'est ça. T'es au moins, heureusement, c'est ça. Puis, t'es quand on va parler du sprint, ben, t'es le fait qu'Hamilton dise qu'il a de la. Et ça s'est vu aussi dans le sprint quand il avait de la. Il était vraiment lent sur les virages lents, surtout à l'époque aussi. Et quand il s'est raté sur son tour de qualification, je voyais que vraiment. Comme tu l'as dit, tous les réglages qu'il y avait, c'était pas prêt de fonctionner. Heureusement qu'il sauve deux, qu'il est allé chercher, grappiller deux points dans ce Grand Prix, parce que même moi, je...
C'est bon pour le moral, au moins, il sait qu'il peut remonter, mais ça demandait beaucoup de travail.
Ouais. Puis la première victoire, toute catégorie confondue, est pas loin d'arriver. Et loin d'arriver, devrais-je dire.
Oh non, il faut des circonstances. Il faut des circonstances pour gagner.
Exactement. Je pense pas. Puis je dois donner une mention honorable à Nico Hülkenberg qui, malgré tout, a quand même marqué un point pour Haas. Et ça se voit que c'est un très bon début de saison pour l'équipe même. Donc, je pense que Hülkenberg... moi, si j'étais Ayoko Matsu, j'essaierais volontiers de le garder parce que je sais que Sauber, il a tenté d'aller chez Sauber pour 2024.
N'y va pas.
Je pense que si c'est vrai que Haas va aller chercher Oliver Bearman pour 2024, c'est hésitant entre voir si...
C'est Magnussen qui va quitter.
Ouais.
C'est Magnussen qui va quitter.
Mais moi, je serais pas surpris non plus si Sauber devait faire une offre alléchante à Hülkenberg. Mais ce qu'il a montré, non seulement aujourd'hui, mais sur l'ensemble de cette saison, puis en plus de 2023, c'est un pilote qu'on sous-estime. Et je sais que j'ai été relativement sévère aussi avec lui depuis les débuts parce que c'est un pilote... j'ai eu des opinions un peu divergentes. C'est un pilote qui a été solide, mais qui... On lui a beaucoup reproché son manque de podium, mais mon Dieu, pour une équipe de milieu de terrain, de milieu de peloton, devrais-je dire, mon Dieu, Hülkenberg est une valeur sûre, très sûre.
Bien d'accord avec toi. La preuve, je regarde le classement actuel au constructeur. Haas est 5 et 7e avec 5 points. Trois autres équipes, Williams, Alpine puis Sauber, ont 0 points. Ça montre comment la Haas a du potentiel. Mm-hmm. Ce qui montre surtout, c'est qu'ils sont à 2 points de RB pour la 6e place. Haas pourrait être la 6e meilleure voiture, alors que pendant des années, c'était la pire.
Ouais.
Quand Haas, en début de saison, a dit « On a fait des améliorations », on y croyait plus ou moins. Force est de constater qu'on s'est trompé, mais on coule pas. Cette voiture est bien meilleure. Tant mieux, parce que c'est une équipe qui, si ça continuait, j'imagine Gene Haas aurait voulu vendre.
Ouais. Et je sais que...
Quand tu vends, tu sais pas à qui tu vends.
Et je sais que beaucoup de... À cause du rejet de la FOM d'inclure Andretti pour minimum 2026... Beaucoup de gens se sont rués vers Haas parce que, évidemment, comment l'équipe est gérée et tout ça, le départ de Günther Steiner a fait mal, mais au final, je pense que pour l'instant.
C'est un bien. Visiblement, c'est un bien.
C'est un mal pour un bien. Je pense que si tout va bien, je pense que beaucoup se sont moqués de Haas pour rien. Certes, il y a des raisons parce que l'équipe a été souvent mal gérée. Le fait que Gene Haas ne veuille pas investir beaucoup dans l'équipe, autant financièrement que personnellement aussi.
Toutes les polémiques extra-sportives liées au conflit ukrainien en Ukraine avec les Russes.
Oui. Et surtout relié aussi à un de leurs anciens pilotes.
Oui, aussi, il y a ça aussi.
Donc, je pense que pour l'instant, Haas fait très bien et Hülkenberg vraiment est une très bonne, très très bonne bouée de sauvetage et il l'a prouvé aujourd'hui. Oui.
Petite statistique intéressante pour Hülkenberg, il est maintenant le pilote avec le plus grand nombre de grands prix sans avoir gagné une course.
Pain.
Il a dépassé Angelo De Cesaris.
Oh! Et ce record qui a tenu depuis des années.
C'est depuis presque 30 ans, là, depuis plus de 35 ans et maintenant aux oubliettes. Merci pour toi, De Cesaris, mais maintenant c'est Hülkenberg.
Ouais, donc j'espère.
Plus grand nombre de courses en podium, plus grand nombre de courses en victoire, c'est lui ça.
Eh oui. Ouch! Au moins, De Cesaris du paradis peut au moins souffler un peu pour dire que ce record ne lui appartient plus.
Peut l'encourager pour que maintenant Hülkenberg aille encore plus loin, repousse la limite.
Et voilà. Donc, qui sait? Bon, on va parler de ce qui est le
Crash Gate.
Le Crash Gate. Voilà. Et non, il n'y a pas de Nelson Piquet impliqué, mais ça implique un coéquipier à Fernando Alonso. Donc,
encore une fois,
le contact entre Lance Stroll et Daniel Ricciardo. C'était durant la première période de voiture de sécurité. Donc, la course est sur le point de repartir. On est au 27e tour. Fernando Alonso bloque les roues à l'épingle. Et là, ça a créé un effet de concertina. Et donc, t'as Russell qui freine pour éviter Alonso. Piastri qui freine pour éviter Russell. Et Ricardo qui freine pour éviter Piastri. Mais t'as Stroll...
Piastri a passé vraiment proche de se faire ramasser par Ricardo.
Oui.
On va se le dire, hein?
Oui. Lui, il a été extrêmement chanceux. Parce que ça aurait pu être... ça aurait pu être dense. Ça aurait pu mettre fin à sa course. Carrément.
Ça aurait mis fin à sa course.
Et t'as Lance Stroll qui était le premier qui a tapé directement Daniel Ricciardo. Ce dernier a eu un plancher brisé, ce qui a causé son abandon et même le double abandon parce que t'as Kevin Magnussen qui a tapé Yuki Tsunoda à la relance.
Oh, oui, ça, on peut en reparler aussi. Ça, j'ai dit au début du balado, mais ça, c'est inexcusable aussi comme pénalité. Wow. C'est du harponnage.
Ah oui, carrément. Mais dans le cas de Stroll, et à la radio aussi, il a dit, il a qualifié d'idiot Daniel Ricciardo. Mais quand on regarde la reprise,
l'idiot, c'est Lance Stroll.
C'est Lance Stroll parce que, au lieu, non seulement il n'a pas ralenti suffisamment, alors que tout le monde a été sur le qui-vive, Stroll regarde dans
le... Il regarde le virage. Il regarde parce que c'est l'épingle, donc le virage est à droite après la longue ligne droite. Puis lui, il regarde à droite. Clairement, il regarde à droite, puis après, il regarde devant, puis il est déjà dans la voiture de Daniel Ricciardo.
Exactement. Et t'as Stroll qui dit, et je le traduis, traduction libre de l'anglais vers le français, quelqu'un a freiné devant le peloton.
Oui, juste parce que tu regardais le virage, donc tu as vu tout le monde freiner.
Et tout le monde s'est arrêté. La voiture devant moi s'est arrêtée de genre 60 km/h à zéro. Donc, c'est un incident stupide.
J'ai pas parlé aussi de brake testing, je m'excuse.
Je pense.
Ça s'en vient plus dans la quote.
Je pense que c'était pas dans la radio, justement, qu'il avait dit ça, mais.
Parce que moi, le concept de brake testing, moi, ça me rappelle plusieurs choses en Formule 1. Il y a comme une espèce de mythe autour de ça, mais bon, juste divers.
Ouais.
Sébastien Vettel et Lewis Hamilton à l'Azerbaïdjan.
Ouais, et encore là, c'était pas
de temps. Honestly, he was brake testing me.
Ouais, mais ça, voilà, c'était...
Excuse-moi, continue.
C'était pas time brake check en plus.
Non, ça n'est pas du tout.
Et lui, il dit, ah, j'ai une pénalité à la fin parce que j'ai tapé Alonso, mais c'est pas comme tout le monde était normal et j'ai juste tapé l'arrière.
Et là... Juste tapé l'arrière.
Ouais.
Il a levé la voiture.
Alors, il a levé, il a causé des dommages importants qui a fait en sorte que Ricardo a dû abandonner. Et là, Jean-Sébastien, je t'ai envoyé la réplique de Daniel Ricardo via Canal+. Et Dieu merci, ouais, c'était pas
un peu, qui est un peu une traduction de ce que je t'ai lu au début du balado. Inexcusable pour Lance Stroll.
Ouais.
Inexcusable.
Non. Je suis désolé.
Il est presque chanceux de t'en sortir avec 10 secondes.
Ouais. Il a servi la pénalité durant deux.
Il l'a servi.
Mais...
Ouais, parce qu'il y avait un changement de pneu.
Mais honnêtement, c'est inexcusable. Parce que oui, je comprends que tout le monde a été surpris par le blocage de roue d'Alonso, mais tout le monde a été capable de réagir en conséquence. Alors. Que Stroll...
Que ce soit devant ou derrière Lance Stroll.
Exact.
Parce que derrière aussi, la voiture qui est derrière Lance Stroll, qui que ce soit a aussi rentré dans Lance Stroll.
C'est ça. Donc, si ça avait été comme... Si ça avait été un effet domino, là, on aurait compris, mais ça a été le seul à avoir tapé une voiture.
C'est un effet accordéon, tout le monde rentre dedans. Oui, tu comprends, du moins qu'il y en a au moins deux qui se rentrent l'un dans l'autre. Deux voitures au moins qui arrêtent le freinage. Soit. Mais là, il y en a juste un.
Donc
là, trouver le coupable, c'est assez facile.
Exactement. Donc, c'est exactement ce que le raisonnement pour les commissaires de donner la pénalité de 10 secondes à Stroll, plus 2 points de pénalité, ce qui lui fait un total de 7 sur une période de 12 mois. Donc,
il est comme. 7, hein?
Ouais.
Ah, quand même.
Donc, tu vois, c'est une collision qui aurait pu être éviter, et ça, c'est clair et net. T'sais, j'ai vu des gens qui ont dit « Ah ouais, mais la faute devrait revenir à Alonso. » Non. Ah,
non, parce que c'est la relance de la course, donc il se passe autre chose devant. Tu veux te donner une certaine distance, tu veux pas être trop dans les pots d'échappement de l'autre voiture. Hey, c'est complètement normal.
Puis, tu vois, ça m'a fait penser, parce que j'ai regardé justement par pur hasard, non seulement les faits saillants prolongés du Grand Prix de Chine 2010 sur YouTube, mais t'avais Jenson Button qui était meneur de ce Grand Prix, qui a freiné, qui a ralenti le peloton, mais ça a créé un genre d'effet d'accordéon, mais personne ne s'est touché. Donc.
Mais non, mais de toute façon, ça, à chaque relance, il y a tout le temps un risque qui ressemble à ça, puis il n'y a personne qui s'accroche. Là.
Puis même Button, lui, au Grand Prix de Singapour 2012, a failli taper Sébastien Vettel quand ce dernier a ralenti. Donc lui, si Button avait tapé Vettel, c'est lui qui aurait été carrément coupable. Parce
mais
que
c'est pas leur première relance de Grand Prix, là.
Non.
C'est pas comme si c'est la première fois qu'ils faisaient ça de leur vie, là. Ils sont habitués à faire ça. Là. Il y en a presque un par Grand Prix maintenant.
Puis
c'est pas difficile.
J'ai vu aussi des comparaisons avec le Grand Prix de Toscane 2020, ce fameux accident à la relance. Ouf.
Ouais, non, mais lui, c'est plus compliqué parce que là, tout le monde ralentissait. Là.
Tout le monde a ralenti, mais lui, il a été celui qui n'a pas ralenti suffisamment. Donc, dans le cas de Toscane, personne n'a été...
Parce qu'on est tellement proche de la ligne, tu t'attends à ce que tout le monde se relance, mais c'est la faute à Bottas qui mène le Grand Prix ce jour-là puis qui décide de donner un rythme à la dernière seconde le plus proche pour arriver de la ligne.
Ouais.
Maintenant, cette chose-là peut plus arriver parce que la ligne de relance, elle se fait beaucoup plus tôt.
C'est ça. Donc,
on peut corriger ce défaut-là. Donc, ici, ça s'applique pas. On est dans un virage.
Ben oui. Donc, Stroll, malheureusement, je peux comprendre l'effet de surprise, mais le fait que tu regardes le virage au lieu de regarder devant, là, c'est un manque
d'attention. Encore loin du virage, là. Il y a quatre voitures devant toi, c'est le virage le plus lent du circuit, tu sais que ça ralentit. Ben non, tu ne regardes pas le virage.
Non, c'est ça.
Surtout à des vitesses lentes comme ça, tu ne regardes pas le virage.
Non, c'est ça. Et en plus, ce qu'il dit après le Grand Prix et pendant aussi, c'est comme ce que Daniel Ricciardo dit, j'espère qu'il va prendre de la responsabilité parce que Ricciardo avait une chance assez bonne de marquer des points.
Oh, il allait marquer des points, je pense.
Oui. Donc, je comprends. Et Daniel était, non seulement avec Canal+, mais aussi avec la presse écrite, il était en beau fusil. Et je peux le comprendre.
Oui, avec raison. Avec raison.
Pas seulement à cause de l'action, mais aussi à cause des commentaires de Lance. En fait, bon, c'est sûr qu'il voulait essayer de, sans excuser les propos. Ben, c'est pas des propos diffamatoires ou quoi que ce soit, mais
non.
Disons que les propos de Lance, c'était plus, il essayait de se sauver la face, ou soit il y avait aucune idée de ce qu'il a fait. En même temps, c'est facile de venir bâcher sur Stroll parce que c'est un bouc émissaire dans la plupart du temps. Mais là-dessus, je peux pas le défendre là-dessus. Là.
Non, je vois mal comment on peut le défendre. En fait, je pense pas qu'on peut le défendre. Puis aussi pour Ricciardo, faut pas oublier que sa carrière est en jeu, qu'il est dans une position très défavorable. Je pense que là-dessus, RB et le groupe Red Bull, de façon générale, comprend très bien que ce n'est pas de la faute de Daniel Ricciardo. Ce qu'on regarde de faire amende honorable lorsqu'ils vont regarder les performances de Daniel Ricciardo, parce que là-dessus, c'est clairement, mais clairement pas de sa faute. On l'a vu tout de suite après, quand il est revenu au puits, il est allé parler avec Laurent Melchiès et avec les gens au mur. Je pense qu'ils ont sérieusement discuté qu'il y avait un potentiel à faire des points, puis ils l'ont échappé. Là,
ouais.
Parce que non, juste non, là. Même Yuki Tsunoda avait pas un vilain Grand Prix, donc ça prouve que la voiture était quand même bonne, là, mais là-dessus, c'est complètement inexcusable pour Lance Stroll. Complètement inexcusable. J'espère qu'il a vu la reprise maintenant. Notre temps, oui, parce que ça fait quand même presque 5 heures que le Grand Prix est terminé. Là. Il a clairement vu la reprise, mais j'espère surtout qu'il va revenir sur ses propos, parce que non, il peut pas juste passer au prochain Grand Prix puis jamais revenir sur l'incident. Là. C'est trop grave.
Ouais, mais disons que Ricardo, certes, est en colère, mais il ne s'est pas aidé non plus, parce que lui aussi a été frappé par une pénalité après la course. Et ça, je pense que nous ne l'avons pas vu à la reprise. Je pense que probablement ça va être expliqué en vidéo ou quoi que ce soit. Ou c'est derrière disponible sur F1 TV.
Ouais, moi j'ai un article de autoedo.fr qui nous dit « Entendu par les commissaires, l'entier de Renault n'a finalement pas échappé à une sanction quelques heures après avoir connu une terrible désillusion. » Citation du communiqué. Le pilote de la voiture 3 a admis qu'il avait dépassé la voiture 27, Hülkenberg, délibérément, mais il a expliqué qu'il pensait pouvoir le faire parce que la voiture 27 l'avait dépassé sous régime de voiture de sécurité au 28e tour. Nous notons que la voiture 27 a été autorisée à dépasser la voiture 3, celle de Ricardo, au 28e tour, en vertu de l'article 55.8, peut-on lire dans le document officiel. Il n'y avait aucune raison justifiable pour que la voiture 3 dépasse la voiture 27 alors que la course se déroulait sous safety car. Reconnu coupable, Daniel Ricciardo est écopé d'une pénalité de 10 secondes, ne pouvant pas être purgé en raison de l'abandon de l'intéressé. C'est très français, c'est la formule quand même. Celle-ci s'est transformée en 3 places de pénalité sur la grille lors de la prochaine course à laquelle il participera. Celle-ci sera donc appliquée lors du Grand Prix de Miami. Par chance, ça sera appliqué lors du sprint.
Ouais. Donc, et en plus, c'est une autre fin de semaine de sprint, alors...
Déjà qu'on se tape Miami, puis en plus, il y a eu sprint.
Hey, c'est en après-midi. Donc,
heureusement, tu imagines, c'est en plein milieu de la nuit. Je plains les Australiens, les Néo-Zélandais puis les Asiatiques.
Ouais, ça va être...
C'est en plein milieu de la nuit, là.
Ça va être rough, mais disons... Mais
oui, donc, Ricardo a eu une pénalité, donc il y a eu 4 pénalités de 10 secondes qui ont été accordées en l'espace de... sur des instants qui se sont déroulés sur 3 tours.
Ouais. Et puis, honnêtement, bon, on n'a pas encore vu des vidéos, des évidences, alors on ne peut pas tellement juger. Donc, on va se fier sur les propos des commissaires et tout ça. Donc, disons que Ricardo, certes, est en colère contre Lance Stroll et avec raison, on ne peut pas le blâmer là-dessus, mais il s'est mis aussi dans une position où il dépasse une voiture derrière en pleine période de voiture de sécurité. C'est pas une claque sur les doigts, là. Ça, c'est genre, merci beaucoup.
Bon, c'est heureux, ça aussi.
C'est ça. Donc, disons, il n'y a aucune raison de dépasser une voiture derrière la voiture de sécurité. Alors, ça là-dessus, tout comme l'incident de Lance Stroll, c'est indéfendable de la part de Ricardo. Je suis désolé. Donc, on n'a pas vu l'action, mais selon ce qui a été dit, je peux pas défendre Ricardo là-dessus. Disons pour finir, on peut pas défendre non plus que Kevin Magnussen a fait sur Yuki Tsunoda son harponnage à l'endroit de Yuki Tsunoda, c'était absolument agressif de sa part.
Oui, c'était agressif, c'était n'importe quoi. Ça, c'était du grand n'importe quoi.
Et même quand tu vois la reprise dans la caméra embarquée de la voiture de Tsunoda, il prend la ligne de course et c'est vraiment Magnussen qui arrive sur le tard. Donc là-dessus, je ne peux pas trouver de circonstances atténuantes à l'endroit de Magnussen non plus. Alors ça, c'est une pénalité... clair, net, 10 secondes carrément. Et c'est dommage pour RB parce que il faisait une relativement une bonne course.
Oui, tout à fait.
Et finalement, ben, il y a Logan Sargeant, comme je l'ai expliqué, qui lui aussi s'est fait pénaliser pour avoir 10 secondes pour avoir. Disons, dépasser Nico Hülkenberg, lui aussi durant la voiture de sécurité, mais lui, c'est de manière différente parce que durant la période de voiture de sécurité, Hülkenberg est sorti de la ligne depuis côte à côte avec Logan Sargeant qui était, il s'amenait vers le virage 1 et Sargeant a été le premier à sortir du virage 1 devant Hülkenberg. Mais lorsque la ligne de la voiture de sécurité, on la voit, c'était Hülkenberg qui était devant la Williams. Donc, lorsque c'est la voiture de sécurité, ben celui qui sort en premier avant la ligne de la voiture de sécurité avant le premier virage est franchi, ben c'est la voiture qui est normalement devant, qui a l'avantage. Donc, normalement, ça aurait été Hülkenberg qui devait être devant Sargeant, mais Sargeant l'a dépassé quand même. Alors, là-dessus, c'était 1-10 secondes. Donc, et en plus, c'est 2 points de pénalité dans sa super licence, ce qui fait en sorte que Sargeant a un total de 8 points de démérite sur une période de 12 mois.
Eh ben, vivement une suspension, j'ai hâte de voir ça.
Hey,
j'ai presque envie de voir une suspension.
Juste
depuis qu'elle permet 12 points, là, on n'a jamais eu encore. Donc, j'ai comme une certaine excitation. C'est un peu morbide, là, mais j'ai presque envie de voir ça.
Ouais, parce que le dernier pilote à avoir été suspendu pour un Grand Prix, c'était Romain Grosjean pour ce fameux incident du premier tour au Grand Prix de Belgique 2012. Mais depuis, je pense que celui qui a été proche, c'était lui et Grosjean, justement, et je crois Pierre Gasly aussi.
Ouais, Pierre Gasly a passé très, très proche.
Il est passé très, très proche. Donc, voilà. C'est pas mal ceux qui ont reçu des pénalités. Donc, on a fait le tour des polémiques. Et on va compléter en parlant du sprint, parce que c'était le premier sprint de la saison. Il y en aura 6. Donc, le prochain, c'est à Miami dans 2 semaines. On va parler du format en tant que tel, parce que ça a été un changement. Donc, les essais libres le vendredi matin, les qualifications sprint le vendredi après-midi, le sprint en matinée, les qualifications pour le Grand Prix en après-midi et la course qui ne change pas en tant que telle, avec évidemment la possibilité de changer les réglages entre le sprint et les qualifications. Jean-Sébastien, qu'as-tu pensé de ce nouveau format?
Je pense pas que ça change grand-chose.
Moi, hein?
Ça fait quelques années qu'on a le sprint maintenant, là. Mm-hmm. Je commence à avoir fait le tour du concept. Je suis pas sûr que ça rend la fin de semaine de Grand Prix plus intéressante. Je pense pas que ça me donne plus envie de regarder la Formule 1. En fait, ça me donne moins envie de regarder la Formule 1, parce que ça veut dire que je dois passer plus de temps à regarder de la Formule 1. Mm-hmm. Je pense qu'il y en a assez. Il y en a peut-être même trop de Formule 1 en réalité. Tu sais, j'ai beau aimer ce sport-là, ça doit être mon sport préféré, mais je pense que l'intérêt de ce sport vient par sa rareté. Et là, il y en a beaucoup.
Ouais.
Par le nombre de fins de semaine, puis par le nombre d'activités qu'il y a par fin de semaine. Il y a 24 Grands Prix plus 6 sprints, ça veut dire que je suis devant mon téléviseur au moins 30 fois, plus la qualif. La qualif, je commence à aller regarder de moins en moins parce que j'ai une vie. Donc, si moi, comme fan, je commence à décrocher un peu, le fan occasionnel, lui, ça fait longtemps qu'il a décroché.
Ouais.
L'effet de rareté rend ça intéressant. La ligue de hockey professionnelle féminine, c'est ça. La rareté rend ça intéressant.
Ouais.
Le football américain, la rareté rend ça intéressant.
Et je pense que tu as plus de chances. Il y a évidemment beaucoup plus de chances que le produit de la LPHF dure bien plus longtemps que Sprint, je vais te dire, parce que au moins, c'est mieux, je pense. Évidemment, la LPHF est mieux gérée que ce que les sprints font. Parce que ça fait tellement de trucs qui ont changé. On a essayé de trouver la formule parfaite. Moi, j'aime les sprints parce qu'au moins, ça fait un petit velours, au moins, plutôt que d'avoir 2 séances d'essai libres d'une heure de plus. Mais
c'est quoi la différence avec la course?
C'est ça, c'est comme ça devient un genre d'essai.
C'est une course sans arrêt. C'est juste une course sans arrêt au puits. Il faut mettre une contrainte.
Je pense que ça devient une genre de séance d'essai libre glorifiée, en fait. C'est
faux.
C'est peut-être ça. C'est comme on se pratique pour la course principale. Et puis, honnêtement, je pense que j'ai encore le sprint du Grand Prix des États-Unis de travers, parce que ça, c'était mauvais, hein, s'il vous plaît. C'était mauvais.
Oui,
ennuyant. C'était ennuyant. Et puis, oui, d'accord, les qualifs sprint ont été chamboulés par la pluie. Donc, ce qui a fait en sorte qu'on a eu relativement des surprises. Mais à part le fait que Norris se soit fait un CF Montréal inversé au premier tour, et que tu as Max Verstappen qui est parti quatrième, qui a dû travailler pour dépasser. Tu as eu les deux Espagnols qui se sont battus et que Perez a fait un true goals Hamilton. Sinon, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, tu sais, je sais que on avait beaucoup de... On se demandait si ça allait être le chaos, parce que c'est un sprint pour le retour de la Formule 1 en Chine, mais ça n'a pas changé grand-chose.
Non, ça n'a pas changé grand-chose, puis je redoute déjà le sprint dans deux semaines. Déjà que Miami, c'est pas intéressant. Là, il faut qu'on se tape en plus un sprint.
Ouais. Mais
c'est pour ça que je reviens à une idée que je t'avais déjà soumise. Je pense que je l'avais déjà dit dans ce balado. Il faut mettre une vraie contrainte. Un pneu fait pour le sprint, on te deux gommes. La gomme qui te permet, c'est sûr, tu peux finir le Grand Prix, mais tu vas être tu vas être sûr de pouvoir finir le sprint, mais tu vas être très lent.
Ouais.
Soit tu as l'autre gomme, une gomme plus tendre, beaucoup plus tendre. Elle, c'est sûr que tu finis pas le Grand Prix.
Ouais.
Ou c'est borderline. Il faut vraiment que tu ralentisses pour pouvoir le faire. Mais qui va te contraindre à te dire, il va falloir que j'aille au puits changer mes pneus parce que sinon, je vais dans le pétrin. Donc, les 3-4 derniers tours, là, c'est est-ce que je fais le switch? Est-ce que je reste? Mon pneu est mort. Là. Je peux plus rouler. Puis là, parce que l'autre pneu derrière, je sais qu'il est suffisamment bon, l'avantage que je ramassais à chaque tour une seconde et demie, là, c'est l'autre voiture qui l'a, puis elle l'a par genre 3-4 secondes au tour.
Ouais.
Il faudrait créer un pneu qui soit bon et lent, face à un pneu rapide, mais qui va devenir une catastrophe à partir d'un certain point.
Ouais, parce que honnêtement, quand tu es obligé de changer le forme, je pense c'est quoi, le troisième ou quatrième format de sprint?
Troisième, quatrième format, puis encore là, le format, il est pas sur la compétition du sprint en elle-même, il est sur toute la fin de semaine.
Ouais.
Donc, il n'est pas tangible pour le spectateur.
C'est ça. Parce que, tu sais, je pense que probablement les sprints où ça a fonctionné, c'est au Brésil.
Ça marche au Brésil.
Ça marche au Brésil.
Et encore.
Et puis, tu sais, je sais que et en plus, la Formule 1 a dit, ben, on regarde les sprints où on met des sprints là où on peut voir qu'il y a de l'action.
Miami a de l'action, évidemment.
honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça va donner à Miami.
Si on fait le top tier, là,
ouais.
Miami, c'est dans D tier.
Ouais, je pense même que je mettrais dans le E tier pour les sprints.
Ah oui, on fait aucun E tier pour ça, qui se passe. Mais sérieux, si on regarde où est-ce qu'il y a de l'action, là, Montréal mérite bien son sprint, là, pas Miami.
Je sais pas trop. Je sais pas trop si Montréal pourrait avoir un sprint. Je pense pas.
Non, mais au niveau de l'action, Montréal pourrait avoir un sprint dans ce cas-là. Si Miami a un sprint à cause qu'il y a de l'action en piste, basé sur ce critère-là, Montréal a un sprint, c'est sûr.
Ouais. Je pense que ça pourrait être un circuit où t'es l'action. Il manquerait pas d'action pour un sprint.
Il faut donner d'autres réglages. Il faut changer des choses fondamentalement aux voitures. Donner un autre parc fermé pour changer les réglages, c'est rien.
Ou tu fais juste...
Faut que ça soit fortement contraignant.
Ou si tu vois que ça fonctionne pas, ben c'est juste les éliminer tout court. Ce serait la solution la plus facile.
J'ai une autre idée.
Ce serait ça.
J'ai une autre idée. Shakedown de 20 minutes. Qualif d'un tour, unique. Sprint le vendredi.
Ouais.
Minimum de reconnaissance. Tu fais 15-20 minutes juste pour faire les tours de réglage pour voir si la voiture était bien remise en place. Puis après, on passe aux qualifications, un tour unique. On installe les voitures pour le sprint. Une heure après, c'est parti, mon kiki.
Là,
on ne connaît rien des voitures. On ne sait rien.
C'est peut-être ce format que j'aurais mieux aimé qu'un genre de qualification réduite avec le même format.
Que personne ne regarde parce que ça se déroule à des heures beaucoup trop tôt le matin.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je vais vous donner le résultat du sprint. Donc, Max Verstappen a gagné ce sprint devant Lewis Hamilton, Sergio Perez, Charles Leclerc et Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri et George Russell sont ceux qui ont marqué des points. Donc,
le sprint se résume en trois grandes activités. L'échec de Norris au premier virage qui est allé beaucoup trop large, Lewis Hamilton a pris la tête. À cause de ça, Lando Norris termine, qu'est-ce que tu as dit, sixième, septième?
Sixième, ouais.
Sixième. La deuxième chose, c'est la remontée de Max Verstappen, partie quatrième, qui a pu finir premier en dépassant les autres voitures. Puis finalement, le dépassement spectaculaire de Sergio Perez sur les deux autres pilotes espagnols. Alonso essaye de contenir Sainz dans un virage, part un peu large, Sainz en profite, dépasse les deux pilotes et finit devant eux. Spectaculaire dépassement.
Et aussi,
c'est ça le sprint. Essentiellement, c'était ça le sprint.
Et aussi, tu as George Russell qui était un des seuls à partir avec le pneu tendre, qui est parti 11e et qui a réussi à marquer un point en... c'était
c'est ça qui est intéressant. Il faudrait que le pneu tendre donne un avantage, mais il faudrait qu'à un moment donné, il devienne un sacré désavantage. Puis on n'est pas là encore.
C'est ça. J'espère que c'est quelque chose que la
Formule 1. On le voit en Grand Prix, ça marche.
Ouais.
Mais pas en sprint parce que c'est les mêmes pneus.
C'est ça. Donc, c'est comme une séance d'essai glorifiée parce que ça permet aux écuries, aux pilotes d'en apprendre plus sur les composés de pneus et.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce qu'après le Grand Prix devient plus soporifique parce que tu connais mieux comment contrôler tes pneus pendant le Grand Prix.
Exact. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Et pour compléter, Jean-Sébastien, la pénalité à Fernando Alonso de 10 secondes qui lui a été imposée pour le contact avec Carlos Sainz. Est-ce que c'est une pénalité qui est justifiée ou c'était ou non, en fait?
Au sprint?
Ouais, au sprint.
Je sais pas.
Moi, je pense que c'est une pénalité qui était relativement justifiée. Je dirais pas complètement. Alors, certes, ça pourrait être classé comme un incident de course et tout ça, mais t'sais, Alonso essaye de... T'sais, on le voit, Alonso fait un léger dive bomb sur Sainz. Alors.
Ouais, c'est vrai. Mais Alonso a une réputation aussi d'être un sacré ratoureux.
Ouais. Ouais.
Il est en Australie, on le vu ailleurs. Il va utiliser tous les trucs du livre qu'il peut faire.
C'est bored.
Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas parfois.
Non, c'est ça. T'as besoin d'un petit peu de shithouse.
Dis de même.
Fernando shithouse Alonso. Voilà. Donc,
Et on peut juste dire qu'il n'y avait aucune référence à Fernando Alonso dans le nouvel album de Taylor Swift.
Ah oui, oui, c'est vrai. Oui,
j'ai parce qu'il y avait cette rumeur étrange, hein, on se souviendra.
Oui, hein. Ouais, cette fameuse rumeur de dating.
D'idylle entre Taylor Swift et Fernando Alonso.
Eh, c'est vrai, justement, tu me fais penser.
Il y a une référence à une Aston Martin. Tu as des accidents comme une Aston Martin, mais dans ce cas-là, je pense que ça s'applique plus à Lance Stroll qu'à Fernando Alonso.
Tu me donnes une idée, je pense que ça va aller dans le texte que je vais rédiger.
Très bien.
Et
abonnez-vous. Abonnez-vous au Substack du Bulletin GP.
Exactement. Le bulletin gp.substack.com. Je vais vous donner le classement des pilotes après ce Grand Prix de Chine. Donc, Max Verstappen a 110 points, Sergio Perez en a 85, Charles Leclerc 76, Carlos Sainz a autant de points que Aston Matthews a de buts en 2023-2024. Nice.
Ouch!
Lando Norris a 58 points, Oscar Piastri en a 38, George Russell en a 33, Fernando Alonso en a 31, Lewis Hamilton en a 19, et Lance Stroll en a 9. Donc, voilà votre top 10 des pilotes. Ensuite, on a au championnat des constructeurs Red Bull qui reste premier avec 195 points. Ferrari en a 151. McLaren en a 96. Mercedes 52. Aston Martin 40. RB 7. Haas 5. Et Williams, Alpine et Sauber, respectivement, à 0 points. Donc, le prochain Grand Prix, ben, ce sera
au Miami. Oh! Parce que moi aussi, je suis capable de citer des chanteurs et des chanteuses québécois.
Ah oui, la référence. Oh, moi, j'aurais pensé aussi à Miami de Ariane Moffat.
Non. Moi, je suis plus d'une autre génération. Je pense davantage à l'album En Flèche de Diane Tell.
Ah, je pense qu'on va.
C'est juste pour toi, Julien, ça.
Ah, OK. Salut, Julien.
Julien.
Donc, j'espère que tu vas écouter ça et j'espère que tu vas aussi écouter l'après-course du Grand Prix de Miami qui sera dans 2 semaines.
Arrête. J'ai même pas envie à ce Grand Prix.
J'espère que ce sera.
Tu vois, j'ai tellement oublié, là, petite parenthèse, puis on va finir parce que ça commence à faire un moment. Je disais à ma copine parce qu'on retourne en Italie cet été puis on visite l'Émilie-Romagne et j'ai des billets pour aller au circuit, pour faire une visite du circuit au mois de juin. Et donc là, je disais, tu sais qu'après le Grand Prix de Chine, c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Puis t'as envie de le regarder parce qu'on y va au circuit. Fait, oh oui, oui, j'ai envie de le voir. Puis là, je me suis rappelé après, oh non, il y a Miami entre-temps. Oh. Tu vois, je vais tellement l'oublier, Miami, là, je le saute carrément. Je pense que c'est Émilie-Romagne le prochain Grand Prix.
Ouais.
Legit, c'est le vrai le prochain Grand Prix.
Eh oui, je pense que ça devrait être le cas, à la place que ce soit...
Mais la bonne chose, ça veut dire qu'on va avoir un excellent Martin Gridwalk.
Oh oui, c'est vrai. Ça...
Parce que Martin n'a pas fait les Grands Prix asiatiques en Australie. Il sera normalement de retour. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Si vous avez un Grand Prix à regarder en anglais, c'est celui-là. Juste pour le Gridwalk. Après, vous pouvez le remettre à RDS. Regardez le Gridwalk entre 15h30 et 15h45 à peu près. Là. Ça va être spectaculaire. Et on se souviendra de l'année passée comment c'était. Hein. Je l'avais fait une recréation ici. Là. Vous voulez écouter ça. Je l'avais fait dans le cadre du balado de Vegas, du pré-balado du Grand Prix de Vegas. Donc, allez réécouter ça. On risque d'avoir du niveau de ce niveau-là.
Oh, j'ai hâte.
Roger!
Ah oui.
Martin qui a tapé Roger de l'autre côté à barre de scrito puis qui envoie Jackie Stewart.
Ah, c'était magnifique.
On ne refuse rien à Sir Jackie.
Oh, et tu sais quoi? Si jamais tu es là pour le balado d'après-course, j'ai hâte d'entendre. On va dédier une section à ça. Si c'est pas
au poste de Grand Prix, ce sera un mardi où je viendrai faire une petite entourloupette pour faire... le résumé.
Yes!
Donc, surtout s'il est intéressant. Surtout s'il y a du S-H-I-T.
on a hâte à ça. Puis d'ailleurs, on en reviendra là-dessus dans l'après-course du Grand Prix de Miami qui sera disponible sur toutes nos plateformes de podcasts préférées. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et autres. Et aussi, on vous invite à vous abonner au Substack du Bulletin GP. Donc, je vais, durant la semaine, commencer à rédiger un texte sur Lance Stroll.
Le nouvel album de Taylor Swift, hein, c'est ça?
Aussi. Donc,
aussi good.
Il faut que je commence à écouter.
On avait besoin d'une autre opinion de Swifties. Hein?
Ouais. On a besoin pour voir s'ils connaissent Lance Stroll aussi.
Il n'y a jamais assez d'opinions sur les Swifties.
Exact. Donc, on est disponible. Donc, sur le Substack est disponible. Aussi, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram et Threads, @lebulletinGP. Et évidemment, le groupe Facebook La Monoplace. Alors, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là.
Mon plaisir, je m'en vais dormir.
Je pense qu'on va faire, je vais faire ça aussi. Et parlant d'Imola, ben, justement, il reste quoi? Au moment où j'enregistre, 2h45 ou 6h d'Imola en endurance. Donc, je vais voir si je vais être capable de toffer là. Mais sur ce, merci d'avoir été là. Mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. On se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de cette balado. Salut tout le monde!